CFM, le MAG, tous les jours, 17h-17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Bonjour tout le monde, salut Rémi.
Salut Aurélien, salut à tous, bonjour Charlotte.
Salut.
Notre invité aujourd'hui, dans le cadre de notre partenariat avec le festival Lettres d'automne, c'est Jean-Marie Blas de Robles, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, je suis ravi de vous recevoir, Jean-Marie Blas de Robles, parce que j'ai pas toujours pu lire l'ensemble des auteurs invités sur le festival Lettres d'automne, il y en a quelques 80, c'est pas facile d'aborder tout ce beau monde. Mais vous, je vous avais lu. Alors j'étais plutôt content. En plus, ça a été une lecture un peu façon mise en abîme, vous voyez, parce que je l'ai lu le soir, je l'ai lu la nuit, dans mes nombreuses insomnies, et j'ai mis longtemps à le lire. Et avec parfois des pauses de plusieurs jours entre mes lectures. Et j'ai eu parfois du mal à savoir si ce que je me rappelais de l'histoire au moment où je reprenais ma lecture était sorti de mes rêves ou de l'imagination fabuleusement astucieuse de Jean-Marie Blas de Robles. De votre imagination. Car on se promène dans ce roman, ou plutôt on se fait promener comme dans un rêve, où chaque scène est susceptible de changer légèrement par rapport à son début. Vous voyez, quand on rêve tout d'un coup, alors qu'on est en train d'évoluer dans un paysage, celui-ci il change, mais c'est d'abord imperceptible, et puis on se retrouve dans un autre rêve, à moins qu'on soit réveillé depuis longtemps, et qu'on ait replongé dans l'île du Point Nemo, ou qu'on n'en soit jamais sorti. Est-ce que j'ai eu des rêves érotiques de voyeur libidineux? Est-ce que j'ai pris trop d'opium avec Martial Cantrel, l'un des nombreux personnages de ce roman? Est-ce que j'ai voyagé à travers le temps, à bord du Transsibérien, en compagnie de personnages à trois jambes, de multimilliardaires et d'autres clowns tristes? C'était un train, au fait, ou c'était le Nautilus? Et puis, que mes amis libraires me pardonnent, cette liseuse numérique sur laquelle je me suis escrimé à tenter de suivre toutes ces folles aventures, elle doit venir de chez Babil Books. Ça expliquerait pourquoi tous ces mots, tous ces mondes se mélangent. C'est ça, elle a été assemblée dans le Périgord. Il doit y avoir un virus. Je crois que je suis contaminé, Jean-Marie Blas de Robles.
Merci pour ce beau compliment. C'est un très beau résumé et qui fait la part belle à la fiction, tout simplement, je crois.
C'est une sacrée aventure de plonger dans ce roman-là aussi. Moi, je trouve, c'est vrai, hein, ce que je raconte là, dans le lancement de notre conversation. Mais ça m'a vraiment fait penser à mes rêves. Moi, j'ai des rêves comme ça qui sont un peu fous, quoi, qui partent dans tous les sens. Et j'ai mis du temps à savoir, en lisant votre roman, bêtement, moi, j'essayais de savoir où, dans quelle époque il se situait, à quel moment. Et puis alors c'est plein de pièges, on sait pas quoi, on sait jamais.
Mais oui, là c'est fait exprès, on est dans le temps en fait de la fiction, c'est-à-dire un non-temps, une acronie plus qu'une uchronie. Et en gros, il y a deux histoires, hein, si on veut résumer un petit peu le roman, ou en tout cas résumer sa structure. Il y a une histoire qui se passe effectivement dans le Périgord, aujourd'hui dans une usine de montage de liseuses numériques. Donc là, on a l'impression d'être dans le réel le plus absolu. On suit la vie de ce directeur chinois d'usine, libidineux, pervers, voyeur. On suit la vie de son amoureuse transie, sa DRH, la vie de quelques-uns de ses ouvriers, de ses ouvrières, la vie d'un personnage dont on ne sait rien au début, mais dont on va s'apercevoir qu'il lit aux salariés de cette entreprise un roman feuilleton, un roman dans le genre de ceux de Jules Verne ou de Dumas, qu'il invente nuit après nuit. On verra le détail après, au cours du roman. Et là, on a l'impression d'être réellement aujourd'hui. Sauf que si on suit correctement l'histoire, on va s'apercevoir que cette usine, elle est délocalisée en France par les Chinois. Donc il y a des choses qui clochent, il y a des aberrations qui montrent qu'on est peut-être dans 30 ans ou dans 50 ans plus tard. Quant à l'autre histoire, qui est celle dont je viens de dire qu'elle était inventée comme un roman de tous les romans que nous avons aimés lorsque nous avons découvert la littérature, les Jules Verne, les Dumas, les Sandrars, les Thomas Mann, etc., etc. On a l'impression, pendant assez longtemps, qu'on est au 19e siècle. Et on s'aperçoit, par petites touches, que c'est un
Un 19e siècle qui ressemble à Brésil, un peu à l'univers de Brésil.
Un 19e siècle que j'appelle, moi, permanent, mais qui est le résultat d'une époque post-industrielle, parce qu'on s'aperçoit que là, dans cette époque-là, le pétrole a disparu, le papier a disparu, les livres ont disparu, les libraires sont montrés dans des jardins d'acclimatation. Et là aussi, donc, il y a une fluctuation, un jeu sur le temps, qui évolue, bien évidemment.
Oui, on se doute bien.
Et qui établit un flottement nécessaire entre les deux histoires, et qui va permettre surtout à ces deux histoires de se recouvrir à la fin du roman, au point qu'on ne saura plus quel était le réel et quelle était l'histoire lue des deux histoires qu'on aura parcourues.
Ouais, et puis si on fait comme moi et que en plus on l'a pas lu trop rapidement, on est obligé d'essayer de se remémorer, on le lit le soir après ses insomnies, on mélange aussi ce qu'on a inventé soi-même. Après,
là on est dans l'hallucination pure et simple, c'est pas si mal non plus.
Et je me suis vraiment demandé en plus au bout d'un moment, mais c'est quoi ? Parce que des fois les liseuses ça tombe en panne, vous savez, ça donne pas le bon chapitre, on remonte en arrière. Pour écrire un roman comme celui-ci, Jean-Marie Blas de Robles, comment vous posez une structure ou d'abord où vous écrivez chacune des histoires qui après viennent s'entrechoquer les unes aux autres?
Non, il y a déjà d'abord un énorme travail de préparation pour ce livre-là. Ça a duré à peu près un an où je n'ai pas écrit une ligne du roman lui-même, mais où je me suis consacré à la structure narrative. Donc vraiment à concevoir un plan extrêmement précis. En l'occurrence, c'est un plan en forme de spirale qui était compliqué à mettre en œuvre. Je voulais que ça soit le plan même du Nautilus, du Nautil, du coquillage dont je parle dans le livre. Et donc mettre au point toutes ces histoires, mettre au point les liens visibles ou invisibles pour le lecteur qui relient ces histoires entre elles et qui permet au lecteur une lecture sans heurts. Donc ça, c'est vraiment un gros travail de mise au point pour résumer, pour dire, pour
oui, parce qu'il faut que ça marche, quoi. Il faut que tout ça fonctionne.
Une machinerie, ouais, une machinerie préalable. Et ensuite, là, c'est le temps de l'écriture. Bon, après, c'est 2 ans d'écriture.
Le choix des personnages, c'est pas Sherlock Holmes, mais c'est son descendant. Mm-hmm. C'est d'ailleurs, c'est pas lui qui est opiumane, c'est son ami qui est opiumane. Mm-hmm. Vous mélangez justement un
petit
peu.
Ce n'est pas lui le détective, oui. C'est son ami le détective, etc., etc. etc.
Ouais.
Oui, bon là, ça vient d'une part importante de l'histoire qui est racontée dans le roman aussi par un personnage. Et qui est ma découverte de la lecture à haute voix dans les fabriques de tabac de Cuba. Il se trouve que dès la naissance de ces fabriques de tabac vers 1860 à Cuba, les cigarières et les cigariers ont obtenu le droit, grâce à certains philanthropes, journalistes et patrons de ces fabriques, de se faire lire à haute voix à peu près ce qu'ils voulaient. De la littérature, mais aussi des encyclopédies, mais aussi de la philosophie, etc. Et ces cigarières ont pris vraiment la chose au mot, si bien que dès vraiment 6 mois après la première création de ces fabriques, toutes les fabriques de Cuba, mais de Saint-Domingue, mais de Key West, mais toutes avaient une ouvrière ou un ouvrier qui était choisi pour sa voix, ses capacités de lecteur, qui leur lisait de la littérature les après-midi et les nouvelles, le journal, le matin. Si bien que ces gens qui étaient analphabètes à près de 80% se sont fait non seulement une culture littéraire absolument invraisemblable, mais aussi ont acquis une conscience politique telle que c'est de ces fabriques qu'est partie la révolution contre l'Espagne, qui était alors les occupants de Cuba. Et ça a été pour moi cette découverte, la preuve par 9 du pouvoir fantastique de la littérature, qui permettait de changer un individu, mais qui permettait aussi, en changeant plusieurs, de changer le monde. Parce que ces cigarières, j'ai lu pas mal d'entretiens où elles racontaient leurs souvenirs, Elle disait, oui, on a lu Proudhon, on a lu Bakounine, on a lu Kropotkine, on a lu Marx, mais c'est pas eux qui nous ont appris la révolte. C'est Jean Valjean, c'est Edmond Dantès. Et c'est vraiment des personnages littéraires, parce que ces personnages étaient très proches d'eux, étaient dans la même misère sociale, et après une transformation difficile, arrivaient non seulement à changer de statut social, mais aussi à se venger de l'injustice qui leur était faite. Et donc moi j'ai décidé de m'emparer de tous ces personnages qui sont notre fond commun de lecture et qui est le fond commun de ces cigarières, de tout ce qui a été lu. Et donc bon, je me suis emparé de Sherlock Holmes, c'est plus Sherlock Holmes, c'est Shylock Holmes, mais aussi de Martial Cantrell qui est un héros de Raymond Roussel, mais aussi de Madame Chauchat qui est une héroïne de La Montagne Magique de Thomas Mann. Vous retrouverez les Bonacieux. Alors, c'est pas Monsieur et Madame Bonacieux des Trois Mousquetaires, mais c'est Carmen et Dieu merci Bonacieux. Il y a comme ça tout un hommage à la littérature, qu'elle soit de populaire ou avec une majuscule, qui est censée réveiller, comme ça l'a fait chez vous, j'ai l'impression, avec tous ces rêves, tout notre fond commun d'imaginaire dû à ces lectures premières qui nous ont formés.
On est en train de discuter avec Jean-Marie Blas de Robles, invité du festival Lettres d'automne. Un petit peu de publicité, faut bien vivre et on revient.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2. Pour Noël, CFM vous réchauffe et vous fait un beau cadeau. Gagnez votre poêle Richard Le Groff. Valeur 1500 €. 1500 €. Les maîtres du feu, partenaires de CFM Radio, vous font faire des économies.
Ouais, yes!
Première étape, répondez au quiz sur cfmradio.fr. Vous avez jusqu'au 17 décembre pour vous inscrire.
Oh, c'est génial!
Puis, si vous êtes sélectionné, rendez-vous le 18 décembre à l'antenne.
Oh, c'est énorme!
CFM, c'est génial!
La MJC de la Bastide Saint-Pierre vous propose toute l'année une multitude d'activités pour tout public. La MJC de la Bastide, c'est aussi des spectacles et une programmation culturelle riche. Avec la salle de spectacle MJC La Négrette, divertissez-vous tout au long de l'année grâce à la musique, la danse, les marionnettes ou encore le théâtre. Renseignements et réservations à la MJC ou sur mjclabastide.com.
Vendredi 28 novembre à 20h30, hommage à Claude Nougaro par Alcina. Un voyage où chaque chanson est une destination et le témoignage d'une belle histoire.
L'association Les Rencontres d'Art au Château vous invite le samedi 6 et dimanche 7 décembre à Bruniquel. Dans les salles des deux châteaux, découvrez les œuvres des artistes et artisans d'art, anciens et nouveaux exposants, souffleurs de verre, céramistes, modistes, relieuses, tisserandes, sculpteurs, forgerons couteliers, bijoutières, peintres et bien d'autres encore. Les Rencontres d'Art au Château, les 6 et 7 décembre, de 10h à 18h30, au château de Bruniquel. Entrée libre et gratuite, restauration et vin chaud sur place.
Au bureau, restaurant, brasserie, pub, lounge à Montauban, c'est formule le midi à 9,50 € ou carte midi et soir pour une restauration traditionnelle à base de produits de qualité. Pour vos afterwork et soirées entre amis, au bureau, c'est des cocktails et des bières à déguster dans une déco unique, des animations et des concerts toutes les semaines dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Nous allons vous donner envie d'aller au bureau. Ouvert 7 jours sur 7 de 10h30 à 2h. Au bureau, face Cap Cinéma à Montauban. Programmation sur aubureau-montauban.com.
CFM à Castelsarrasin. Castelsarrasin. 90.7. 90.7.
Jean-Marie Blas de Robles, vous serez tout à l'heure aux Augustins, au Théâtre des Augustins, à partir de 18h30 pour une rencontre intitulée Un écrivain, une heure, avec en face de vous Catherine Pont-Humbert et puis bien sûr le public qui viendra à votre rencontre. Vous aimez ces rencontres-là? C'est un exercice qui vous plaît, ça?
Oui, c'est un exercice essentiel. Ça permet de rencontrer des lecteurs. Et qu'est-ce qu'un écrivain sans lecteur? Ça n'est qu'un rêveur solitaire et malheureux. Non, ça permet de me mettre en déséquilibre, en fait, hein, parce que je prends très au sérieux les questions qui me sont posées chaque fois. Elles sont chaque fois différentes, que ce soit des journalistes ou des intervieweurs ou des lecteurs qui sont dans la salle. Et donc, ça me met en péril et ça m'oblige à réfléchir sur mon travail et à avancer. Donc c'est un grand plaisir chaque fois, même si c'est très stressant, je l'avoue.
Je reviens, parce que ça c'est une des questions qu'on doit vous poser, en tout cas on doit vous questionner souvent là-dessus, mais je voudrais y revenir sur la création des personnages. On parlait de la création de ces personnages tout à l'heure, qui sont un peu une agglomération de tous les héros de la littérature qui fait le socle commun, qui fait notre socle commun. Est-ce que vous vous amusez un peu au moment où vous le faites, ou bien est-ce que c'est quelque chose de très studieux, de très travaillé?
C'est les deux à la fois. Je m'amuse comme un fou. Si vous arrivez à rire à certains passages, c'est que j'ai ri moi-même en les écrivant, et que j'étais tout content d'avoir trouvé cette idée, ou d'avoir noté ce travers de personnages que j'allais mettre en exergue. Après, il y a tout le travail sur la langue, qui est mon travail principal, celui sur lequel je porte le plus d'efforts. Et là, j'avoue que pour moi, c'est pénible. Ça, c'est même pour écrire quelque chose qui va faire rire et qui m'a fait rire quand je l'ai pensé, quand je l'ai noté en deux phrases à jeter sur le papier, entre le moment où je me mets à écrire et où le moment où je suis satisfait même de cette petite phrase qui a l'air toute bête, toute simple, et qui vous fait éclater de rire dans le livre, il y a eu parfois une semaine d'angoisse, de travail studieux sur la musicalité de la langue, sur sa syntaxe, sur j'ai besoin de lire à haute voix moi-même tout ce que j'écris, et c'est tout se passe comme si j'avais une espèce de musique préalable dans la tête qui seule me dit lorsque la phrase est bonne ou pas. Donc
parce que là, il n'y a pas de règle particulière.
Donc là, il n'y a pas de règle écrite. Du coup, c'est assez compliqué. Oui.
C'est pareil à tous les moments de l'écriture du roman, où il y a des moments vers la fin où ça devient plus compliqué, ou au contraire, vous êtes davantage porté par l'écriture quand vous êtes au début ou à la fin d'un projet?
Non, c'est pareil tout le temps. Les seuls moments de délectation absolue, c'est avant et après. C'est toute la période de documentation où j'ai pas encore écrit une ligne, où je suis moi-même un rêveur et où je rêve mes personnages, je rêve mes histoires, je me les raconte comme vous voulez raconter dans vos rêves tout à l'heure. Bon, là c'est un état de plaisir, de bonheur absolu.
Vous notez là, dans ces moments-là, ou pas encore?
Je passe mon temps à noter, à dessiner mes personnages, à les peindre,
vous peignez, vous dessinez vos personnages.
Oui, des mini storyboards. Vous viendrez chez moi, tout est punaisé. C'est, on dirait, un capharnaüm de feuilles, de notes.
Vous avez besoin comme ça de voir visuellement, d'évoluer physiquement au milieu des personnages,
au milieu des décors, au milieu de... Oui, comme une préparation de film, même si ce que j'ai écrit n'a rien à voir avec la structure du cinéma. Et donc là, c'est tellement bien que je suis prêt à rester 10 ans comme ça, sans écrire une ligne, parce que je suis des pistes, je lis énormément de livres, je trouve encore de bonnes idées, j'ai l'impression que la bonne idée est encore à trouver, donc période de bonheur. Et l'autre, c'est à la fin, c'est quand vraiment le livre est terminé, pas édité, mais que je le lis à haute voix et que tout à coup le miracle se produit, que j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai écrit et que ça fonctionne et que ça sonne bien, et là c'est à nouveau une vraie jouissance.
Il vous arrive
du travail accompli
de relire un de vos livres, mais très longtemps après?
Oui, ça m'arrive.
D'essayer de porter un regard neuf comme ça sur un
travail. Au point que La Mémoire de Riz, par exemple, ce recueil de nouvelles que j'ai publié, qui était mon premier livre,
pour lequel vous avez eu le prix.
J'ai pris le prix de l'Académie française de la nouvelle. Je l'ai relu 20 ans après, 30 ans après, pour une réédition, justement. Et là, c'était quand même difficile, parce que il y a les trois quarts du livre qui fonctionnent encore, enfin qui fonctionnaient parfaitement, où j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre, où je retrouvais cette musicalité, et puis quand même un quart du livre où là, avec la maturité que j'avais, que j'ai aujourd'hui, l'expérience, disons, je m'apercevais d'erreurs de jeunesse, de prétention de jeunesse, avec des choix de vocabulaire précieux. Enfin, je voyais des erreurs de jeunesse que je ne ferai plus aujourd'hui, mais que du coup j'ai corrigé, parce que après tout c'est mon...
Pour la réédition.
C'est mon travail, donc d'accord. Ça a été réédité, revu, recorrigé, j'ai fait des coupes, j'ai rajouté des choses, j'ai repris à mon compte ce livre comme si je l'avais écrit aujourd'hui, pour m'en rendre possesseur. Donc aujourd'hui il est...
Donc vous me conseillez de lire la version d'aujourd'hui, pas la version originale.
Ben absolument, bien sûr. Mmh. Non, l'autre, elle est à brûler.
Est-ce qu'il vous arrive aussi de faire des lectures à haute voix de vos œuvres dans des manifestations comme là, par exemple, Lettre d'automne?
Chaque fois qu'on me le demande, c'est avec grand plaisir. J'adore lire à haute voix.
C'est pas le cas de tous les écrivains, ça.
Je sais, mais bon, dans mon cas, ça me plaît beaucoup, surtout que j'écris vraiment pour l'oralité, en tout cas pour tester la langue à travers l'oral. Et donc j'ai beaucoup de plaisir, mais malheureusement, c'est pas souvent qu'on demande, y compris dans les festivals. Moi, si je milite pour qu'il y ait plus de lectures, qu'on fasse des lectures d'une heure, par exemple, qu'on laisse un auteur qui aime lire et qui sache lire aussi, parce que bon, on peut ne pas savoir lire ses propres ouvrages, mais les faire lire par des acteurs, etc., mais donner le texte lui-même à entendre.
Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a Marcus Malte, un des auteurs, celui qu'on recevait hier soir dans cette émission, qui lit, qui fait un concert lecture ce soir. C'est à Molière que ça se passe, à la salle Pyramide. Concert gratuit, monsieur, dame. Concert lecture gratuit, organisé toujours par Confluence dans le cadre de ce festival Lettres d'automne, pour lequel... Jean-Marie Blas de Robles, vous serez tout à l'heure, donc pas très loin d'ici, de l'autre côté du Pont Vieux, au petit théâtre des Augustins pour une rencontre. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre de très sympa? Un déjeuner rencontre, un auteur à ma table, ça s'appelle, et ça ce sera vendredi au Faubourg 73. Et puis vous dédicacerez vos livres à la librairie de Loche vendredi à 17h. Et puis, une autre rencontre, un étonnant voyageur, ce sera vendredi 28 à 21h, au théâtre peut-être, au théâtre Olympe de Gouges. Merci Natacha de me souffler l'endroit. Merci Jean-Marie Blas de Robles d'être venu.
Mais merci à vous.
Et c'est pas grave si des fois on comprend pas toutes les allusions qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas lu tous les romans et qu'on connaît pas tous les personnages.
Surtout pas, ce n'est pas un jeu de piste.
On a le droit de...
Absolument.
On a le droit de le faire aussi.
Même d'en inventer qui n'y sont pas. Au contraire.
Merci Jean-Marie Blas de Robles. Le coup de projecteur, Montalbanais, Charlotte.
Oui, alors moi je vous parle du Rio parce qu'il y a un concert ce qui s'appelle Le Père Noël est un rocker. Donc ça se passe samedi à 21h et ce sont quatre groupes de la région qui vont jouer tour à tour un répertoire de la musique pop, folk et rock. Le prix de l'entrée, c'est un jouet neuf donné et ces jouets seront ensuite reversés par les associations aux enfants qui n'ont pas de Noël. Patrick Combalbert est directeur et programmateur du Rio. Il organise ce concert depuis plus de 15 ans.
Le principe, donc, c'est d'avoir des groupes sur scène et les gens payent leur entrée avec un jouet neuf. Ces jouets sont donnés immédiatement au Secours Populaire et au Secours Catholique. On a rajouté, nous, un petit chèque de 150-200 euros pour le Téléthon et les Restos du Cœur. Ils se le dispatchent entre eux, ça fait 200-300 jouets selon les années. Et c'est tous les ans un plateau artistique varié. Souvent, c'est des groupes qu'on a envie de mettre en avant, de la jeune scène locale, plutôt amateur.
C'est qui comme groupe?
C'est Airpeak, c'est Noisy Box. C'est The Strings, c'est The Concept. Alors, il y en a un qui est de Bordeaux, un de Toulouse et deux de Montauban. C'est plutôt tendance folk, rock, pop. Le Père Noël est un rocker. C'est une vieille histoire qui existe en France depuis presque 25 ans. Ça a été monté à l'époque par Elmer Footbeat sur Nantes. L'idée était de faire un concert caritatif, une entrée, un jouet avec plein de groupes sur scène. Ça a été repris par le Printemps de Bourges et ça a été développé au niveau national avec les antennes du Printemps de Bourges régional comme ici avant-mardi. Et nous, en tant que relais départemental d'avant-mardi, on s'est lancé là-dedans. Ça fait presque 18-19 ans, la création du Rio, quoi.
Le concert Le Père Noël est un rocker, c'est samedi au Rio, à partir de 20h30, portes ouvertes, ouverture des portes, une entrée pour un jouet donné.
Merci Charlotte, il nous reste un tout petit peu de temps, on y va en musique.
On clôture ce Mag du Tarn-et-Garonne en musique, et vous l'avez reconnu, Nirvana, c'est About a Girl version live. Voilà, c'était le Mag du Tarn-et-Garonne. Nous recevions il y a quelques minutes Jean-Marie Blas de Robles. Vous pouvez retrouver tout ça en podcast sur cfmradio.fr.